Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Nous sommes ensemble en direct pour une heure pour vous parler de l'actualité, bien sûr, de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs sur le 88.4. Nos invités du jour, Sophie Barre, d'abord du collectif Nous Toutes 78. Elle sera avec nous pour nous parler de droits des femmes, deux jours après le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Anne Backland, chargée de projet santé publique, également coordinatrice du contrat local de santé à l'IPS, donc l'Institut de promotion de santé de Saint-Quentin-en-Yvelines, sera également avec nous pour nous parler du programme Entraidant, un programme pour venir en aide aux entraidants familiaux. Sébastien Perrenot sera notre invité, professeur de mathématiques en collège et fondateur de la chaîne YouTube Joli Math. Il nous parlera d'un concours de code secret qu'il lance, le Crypto Challenge 2021, lancé à l'occasion de la semaine des mathématiques. C'est la semaine prochaine du 15 au 22 mars. Le flash d'actualité locale, c'est à 17h30. En fin d'émission, on retrouve bien sûr notre minute conso avec Pierre Joannet de l'UFC. Que choisir ? Pierre nous dira de ne rien signer précipitamment concernant la fin des tarifs réglementés. On en reparlera en fin d'émission. Kama, notre stagiaire préféré, sera bien sûr avec nous pour nous parler de Sourire de Femme, une consultation lancée par les conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine sur le cadre de vie des femmes dans ces deux départements. Allez, musique, et on revient juste après avec notre premier invité pour parler droits des femmes. À tout de suite.
Mélophilo, vas-y. J'écris des rimes fortes, l'émotion passe par ma musique. En 88, j'étais un novice fils. Je descendais dans la rue, contemplais son décor. Et aujourd'hui, je rappe jusqu'à la mort. Zanidane était déjà dans la peinture, Zorge dans la bande. Et moi j'avais mon stylo bim pour l'écriture. La gloire ou l'argent, on n'y pensait même pas. C'était l'amour pour le hip hop et on le savait déjà.
Boulogne était une ville encore endormie.
Tu veux des news, prends le trône, mais va jusqu'à Paris. Aujourd'hui je représente Boulogne, Ponce-Saint. La nuit je marche vers les étoiles quand ma cité s'éveille. J'envoie de la lumière, mon groupe est clair comme un luminaire. Expose des rimes intelligentes, juste pour mes frères. J'écris des rimes fortes, l'émotion passe par ma musique. En 88, j'étais un novice suisse.
Dans les noms des sons, dans les noms des sons.
Même nos rimes légendaires partout autour du monde.
Dans les noms des sons, dans les noms des sons.
Sage poète, style sage poète.
Tu connais ma position au sujet du rap. Si tu brûles les étapes, tu te retrouveras au fond d'une trappe. Maintenant c'est le business qui prend le dessus. Je suis déçu, je vois des jeunes qui perdent la tête et font des choses inattendues. Mais moi je poursuis ma route. Avec mon groupe, on ramène le soleil pour éclairer les trous. Je suis comme une plante qui a besoin d'eau fraîche pour s'épanouir. Et j'ai cette volonté farouche de réussir. J'écris des rimes fortes, la musique je l'exporte.
Et si tu l'aimes,
tu feras pas de main à ma porte. Et ensuite tu diras merci. Car c'est la qualité, on rentre dans tous les foyers. C'est bien la vérité, j'ai besoin de ça. Ma source est musicale, je prends vie et forme. Mes mots te pénètrent comme des balles. Cuir porteur, rime délicieuse, colporteur. J'ai fait voyager dans mon univers, il est l'heure.
On est bon, des sons, dans les noms des environs.
Nos rimes légendaires partout autour du monde.
On est bon, des sons, dans les noms des sons.
Sage poète, si sage poète.
On est bon, des sons, dans les noms des sons.
Je veux briller comme une étoile, puis ramener les frères dans la danse comme en 84. Dans notre musique, y'a pas de faille, tu restes debout. Y'a toujours ce petit truc en plus qui fait qu'on reste dans le coup. On te met au top comme genre si tu rejoins nos rangs. Mais si tu trahis l'équipe, on ne fera pas de sentiments. J'aère mes phrases pour créer de l'espace. Place les mots essentiels dans les mesures, tu vois que c'est efficace. dans mes yeux. Il y a cette paix que tu réclames, tu sais, ange qui vient du ciel pour épurer ton âme. J'arrive en force, bébé, avec cette funky attitude.
Toi, toi, profil qui plaît à la multitude.
Ton inon des sons,
avec nos rimes légendaires, pas tout autour du monde.
Ton inon des sons, ton inon des sons.
Sage poète, si sage poète.
Ton inon des sons, ton inon des sons.
17h passé de 5 minutes, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4, l'émission qui vous parle de l'actualité de Saint-Quentin en Yvelines et ses environs, bien sûr, comme tous les mercredis à cette heure-ci, entre 17h et 18h. Allez, tout de suite, on accueille notre premier invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Sophie Barre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'origine du collectif Yvelinois Nous Toutes 78, donc, et membre actif également de ce collectif. Le 8 mars dernier, donc, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Marlène Schiappa était dans les Yvelines. La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur était à Rambouillet. Elle a annoncé des résultats, notamment de l'audit sur l'accueil en commissariat et les brigades de gendarmerie des victimes de violences. Un chiffre qu'elle a beaucoup mis en avant, c'est le chiffre de 90% des victimes qui se disent satisfaites de l'accueil en commissariat ou gendarmerie. Alors, est-ce que c'est une vraie avancée ou est-ce que vous jugez cela plutôt insuffisant du côté de Nous Tous 78?
Écoutez, je suis très étonnée et pour vous dire franchement très sceptique sur ces chiffres de 90% de femmes qui seraient satisfaites de leur accueil en commissariat ou gendarmerie. C'est une enquête qui a été faite par les services du ministère de l'Intérieur, donc ça n'est pas une enquête indépendante. Et nous, en tant que collectif militant, que ce soit au niveau local ou au niveau national, on sait très bien qu'énormément de femmes sont mal accueillies dans les commissariats et les gendarmeries. Elles sont confrontées à la banalisation de ce qu'elles dénoncent. On leur dit « il n'y a pas mort d'homme, mais madame, c'est pas grave, c'est rien, c'est juste une parole en l'air, vous inquiétez pas, il va pas recommencer, etc. » Il y a des refus de plainte, il y a encore des refus de plainte. Il faut savoir que l'article 15.3 du code de procédure, je ne sais plus de quel code d'ailleurs, oblige les fonctionnaires de police à prendre des plaintes. On a le droit de déposer une plainte pour quelque motif que ce soit. Il y a encore des refus de plainte aujourd'hui. Il y a aussi des propos sexistes, une culpabilisation, des propos du type vous allez ruiner sa vie si vous portez plainte, etc., etc. Donc, je pense sincèrement que ce chiffre, il est très bizarre. Et à mon avis, il ne correspond pas à la réalité.
Oui. Voilà. Oui, il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur voilà, tout ce qui a été mis en place ces trois dernières années. Est-ce qu'il y a des choses d'ailleurs qui sont plutôt positives dans ce qui a été mis en place? On sait que bon, il y a beaucoup de communication qui est faite autour de ces thématiques qui sont très importantes, mais est-ce que la réalité voilà, suit la communication? Alors là, vous venez de nous le dire, sur les 90%, vous êtes plutôt sceptique et sur le reste?
Emmanuel Macron a déclaré et décrété l'égalité femmes-hommes grande cause nationale de son quinquennat. Et effectivement, il y a beaucoup de communication à ce sujet. Il y avait un secrétariat d'État aux droits des femmes, donc même pas de ministère. Et aujourd'hui, il y a une ministre déléguée, donc toujours pas une ministre de plein exercice. Il n'y a pas d'argent supplémentaire par rapport aux années précédentes qui est mis sur les violences. Donc il y a un budget constant qui est largement insuffisant. Nous, on prend souvent comme exemple l'Espagne, qui est un pays où il y avait un taux de violence extrêmement élevé à l'encontre des femmes. L'Espagne, suite à des événements qui ont vraiment marqué la population espagnole, l'Espagne s'est engagée à partir des années 2000 dans des politiques de très grande ampleur sur les violences, avec des résultats. Pour vous donner un exemple, par exemple, les ordonnances de protection, qui sont ces ordonnances prononcées par des juges qui permettent d'éloigner un conjoint violent et donc de protéger une femme victime de violence. L'Espagne en délivre 20 000 chaque année, sachant que la population espagnole est largement inférieure à celle de la France. Nous, on en délivre 1300, donc 20 000 fois moins. C'est quelque chose qui nécessite une prise en charge totalement différente de la part de la police et de la justice, notamment des juges, et ça nécessite une formation en fait, parce que en France, énormément de plaintes sont classées sans suite. Ouais. Et d'ailleurs, on voit que les victimes de féminicides, dans à peu près 50% des cas, avaient alerté les services de police ou les services de justice, et rien n'avait été fait. On a eu des cas de féminicide où il y avait eu trois, je crois qu'il y a eu un cas dans les Yvelines en 2021 d'une femme qui avait appelé à l'aide trois fois la police.
Tout à fait.
Ça me paraît très malaisant d'entendre un gouvernement se déclarer satisfait de son action, sachant qu'il n'y a pas de moyens supplémentaires qui sont mis sur la table pour lutter contre les violences, et sachant qu'il y a un niveau de violence extrêmement élevé en France. On pourrait parler aussi du viol.
Oui.
Moi, je travaille en particulier sur la culture du viol. Je dispense une formation via les réseaux sociaux le soir. C'est une formation qui est gratuite par nous toutes. Vous voyez, là encore, ce week-end, je ne sais pas si les internautes ont vu passer ce visuel qui est diffusé par le compte officiel de la police nationale sur le cyberharcèlement, où on culpabilise les victimes de divulgation de photos intimes en leur disant si vous envoyez une photo nue, toute votre famille va la recevoir. Donc, en gros, c'est de votre faute, quoi.
Ouais, hein. C'est sur les fameux nudes. D'ailleurs, ils ont retiré le visuel.
Ils ont retiré immédiatement. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que ils ont dépensé de l'argent pour faire cette campagne. Il y a eu toute une chaîne de commandement qui a validé la publication de ce visuel et du message qui allait avec. Donc, ça veut dire que dans leur service, il n'y a pas une seule personne qui s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci quand même, parce qu'on déresponsabilisait totalement les agresseurs. Et puis, il a suffi d'un message de nous toutes, mais ça aurait pu être de quelqu'un d'autre, pour qu'ils retirent. Donc, s'ils l'ont retiré, c'est bien qu'il y avait un problème, sinon ils ne l'auraient pas retiré. Donc, sur ce visuel, en fait, la focalisation était sur la victime. C'est-à-dire, c'est la jeune fille. Donc, déjà, ça sous-entend que c'est les jeunes filles qui envoient des nudes. Donc, je ne sais pas s'ils sont au courant que les garçons et les hommes aussi le font. D'ailleurs, parfois, ils le font de manière non consentie. Ce qu'on appelle les dick pics, c'est des hommes qui envoient des photos de leur sexe. Donc, ça, on n'a pas vu de campagne de communication de la police nationale sur l'envoi non sollicité de photos à caractère sexuel. Et puis, il y a beaucoup d'internautes qui se sont amusés à détourner cette campagne de la police pour en faire ce que ça aurait dû être, avec un message « Tu as bien reçu son nude, si tu veux le divulguer, ce sera 60 000 euros d'amende et je crois 2 ans d'emprisonnement.
Ouais. »
Vous voyez, c'est ça ce que devrait faire la police. C'est rappeler la loi et interpeller les agresseurs potentiels en leur disant « Si vous faites ça, c'est interdit. » Rappeler une norme qui est que la violence, c'est pas bien. Alors que là, on prépare les jeunes filles à ne pas faire confiance aux garçons. Et moi, ça me rend très triste, d'autant plus que moi, je suis enseignante envers les adolescents, puisque je suis prof de lycée, et je sais très bien que les garçons ne sont pas violents par nature, et d'ailleurs, une majorité ne sont pas violents du tout, et les filles et les garçons ont des rapports qui peuvent être très apaisés. Bien sûr qu'il y a de la violence, mais si on véhicule comme idée aux jeunes, dès leur plus jeune âge, dès l'adolescence, que les filles ne peuvent pas faire confiance et que les garçons sont violents, si c'est ça le message qu'on leur envoie, comment voulez-vous qu'il y ait des relations égalitaires et de confiance qui puissent se tisser dans une société ? En fait, on fait peser tout le poids sur les filles. C'est absolument désastreux comme communication.
Sophie,
voilà. C'était quelques exemples. Maintenant, il y a aussi de l'optimisme à avoir. Moi, mon optimisme, personnellement, il vient pas du gouvernement, il vient plutôt de la société et notamment des jeunes, parce que on voit énormément de jeunes qui s'impliquent dans le militantisme, des filles, mais aussi des garçons, qui participent à nos mobilisations, qui se mobilisent dans leurs établissements scolaires, qui prennent des initiatives. Et je crois vraiment qu'il y a une jeune génération qui est prête au changement. Et certainement un monde un peu ancien qui s'accroche et qui résiste et qui a du mal à lâcher.
Même si l'actualité récente pourrait faire baisser les bras à plus d'une personne. On pense notamment à cette jeune fille de 14 ans qui a été tuée. Vous parliez tout à l'heure des alertes qui avaient été données. Il y a des alertes qui avaient été données également. Elle en avait parlé aux parents, elle avait parlé à des camarades en disant que voilà, il y a une menace quand même qui était clairement établie. Mais on a l'impression qu'on répète toujours la même chose. Hein. Désolé de le dire comme ça, mais qu'est-ce qui fait que ça bloque et que ça n'avance pas? Qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses?
Écoutez, je pense que la France est un pays, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est un pays où il y a énormément de sexisme et l'éducation des enfants reste très sexiste. Moi, j'ai un petit garçon de 4 ans et je vois les livres qui lui sont offerts, les jouets et les messages, les représentations des personnages, par exemple, avec des personnages masculins qui sont actifs, qui sont souvent forts, parfois un peu agressifs, et puis les personnages féminins qui sont dans la douceur, dans l'accompagnement, dans la passivité, qui ont besoin d'être sauvés, etc. Donc ça, c'est des représentations qui tendent à confirmer des rapports de domination où les femmes ont besoin des hommes, etc., où les hommes sont forts, etc. Donc ça, je pense que c'est une des raisons. Ensuite, il y a des stéréotypes sexistes qui sont véhiculés à l'école, en plus des familles. Il y a des représentations culturelles, notamment avec le cinéma, par exemple, les séries télé, les films, les livres, avec ce qu'on appelle la culture du viol qui se diffuse, c'est-à-dire l'idée que l'agressivité sexuelle masculine est une sorte de norme, avec l'idée que les hommes ont besoin d'une sexualité et que les femmes, en fait, elles disent non, mais elles sont consentantes quand même, donc c'est pas tellement grave de les forcer, parce qu'au final, elles seront très contentes, hein, c'est ce qu'on voit dans... pas seulement dans la pornographie, mais aussi dans les films, même y compris les baisers forcés dans les films de Walt Disney. Hein. Donc, si vous voulez, c'est tout un environnement culturel. C'est aussi au niveau des médias, du traitement, par exemple, du traitement journalistique des affaires de violence. C'est aussi dans la parole publique. C'est le fait d'avoir un ministre de l'Intérieur qui a été accusé de violence sexuelle par plusieurs femmes et ça n'a pas posé problème qu'il soit ministre et en plus ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire... des forces de l'ordre. Donc, je pense que ce qui explique ce taux de violence, c'est qu'on reste dans une société qui est patriarcale, qui est une société à domination masculine. Et qu'est-ce qui pourrait faire que ça change? Ben, je pense que malgré tout, il y a une jeunesse, d'une part, et des collectifs militants, d'autre part, qui poussent, qui secoue la société et je crois vraiment, je suis convaincue que les jeunes de leur vivant, et moi de mon vivant, je suis un peu plus vieille mais pas très vieille non plus, je pense vraiment qu'on va avoir des évolutions très positives.
Un dernier mot pour terminer, Sophie Barre. Vous avez publié le 4 mars, le collectif en tout cas, nous toutes, a publié un manuel d'action pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles. Pouvez-vous nous dire en quelques mots voilà, comment le retrouver qu'est-ce qu'on y trouve en quelques mots?
Oui, alors effectivement, donc c'est un livre qui a été écrit par Caroline Dehaast en utilisant les contenus des formations que nous dispensons. Donc on dispense toujours une formation qui s'appelle « Violence, sexualité, sexuelle ». Il y a un niveau 1 et un niveau 2. Ça dure 2h30, c'est gratuit, le soir, sur Zoom. Il y a aussi des modules en journée, le matin ou l'après-midi. Il suffit de s'inscrire sur nos réseaux sociaux. Et des contenus de ces formations, elle a fait effectivement un livre. Donc l'ensemble des bénéfices revient au collectif Nous Toutes. Et on peut se le procurer dans l'ensemble des points de vente, des librairies, je crois aussi des supermarchés sur Internet, mais il est déjà plus ou moins en rupture parce que ça a cartonné et donc il est en réimpression. Voilà. Ça parle des mécanismes des violences, ça donne des chiffres des violences, ça donne aussi des outils sur que dire par exemple à une femme victime. Donc c'est vraiment un livre de référence sur les violences sexistes et sexuelles.
Merci beaucoup, Sophie Barre. Je rappelle
Est-ce que je peux rajouter une toute petite chose?
Oui, allez-y.
S'il y a des internautes qui souhaitent nous rejoindre, il suffit de taper Nous Toutes 78. On a un Facebook, un Twitter et un Instagram. Vous pouvez nous rejoindre, nous écrire, on vous répondra. Et on a un collectif qui est très actif dans les Yvelines. Là, on va participer à l'opération Violento Baguette. Donc, on va distribuer des sachets dans les boulangeries. C'est-à-dire qu'on va donner gratuitement aux boulangeries des sachets sur lesquels il y a le violentomètre. Ça va être fait dans toutes les Yvelines et dans toute la France. Hein, c'est une opération de nous toutes. Donc beaucoup de personnes vont voir ces sachets dans leur boulangerie. Et on fait plein d'autres actions. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez, si vous avez envie de vous engager dans du militantisme féministe.
Voilà, et puis n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur le violentomètre, notamment, allez sur le podcast de la radio Marmite FM. Nous avions déjà reçu Sophie Barre pour en parler. Merci beaucoup, Sophie Barre.
Voilà, merci à vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Il est 17h passé de 20 minutes. Vous écoutez Marmite fait son actu sur le 88.4. Restez connectés dans quelques instants. Un autre invité. Mercredi 10 mars, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Marmite fait son actu, c'est bien sûr l'émission du mercredi qui vous parle de l'actualité de Saint-Quentin en Yvelines et ses environs en direct jusqu'à 18h. La rediffusion, c'est ce vendredi de 17h à 18h. Et puis pour les retardataires, vraiment retardataires, le samedi de 12h à 13h. Allez, on accueille tout de suite notre second invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Sébastien Perronneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de mathématiques en collège et également le fondateur d'une chaîne pédagogique appelée Jolie Math, une chaîne à retrouver sur YouTube. Vous êtes avec nous pour nous parler d'un concours de code secret, le Crypto Challenge 2021, défi Charles Babbage, que vous lancez à l'occasion de la semaine des mathématiques qui aura lieu du 15 au 22 mars prochain. Un petit mot de présentation peut-être pour commencer, Sébastien Perronneau, sur votre chaîne YouTube Jolie Math.
Alors effectivement, donc Jolie Math, ça a démarré comme une chaîne vidéo sur YouTube. C'est né d'ateliers de vidéos que je faisais avec des classes de 4e. Et puis progressivement, donc je l'ai étendu aussi avec des vidéos solo ou fait avec d'autres élèves. L'idée, c'est de prendre un sujet de maths pure, par exemple Pythagore, et de le présenter d'une manière inattendue, qui n'est pas la manière traditionnelle de le présenter scolairement. Sur la chaîne, on peut aussi trouver des sujets qui sont en apparence pas mathématiques, et d'aller le voir un peu plus loin et de voir qu'en fait, il y a des mathématiques derrière. Ou encore, un autre thème qui est abordé sur la chaîne, c'est de répondre entre guillemets à une question qu'on ne s'est jamais posée. Par exemple, jusqu'à combien on peut compter en levant et en baissant les doigts des deux mains. Et la réponse est assez inattendue, c'est 1023. Donc l'idée, en fait, c'est de ne pas faire des mathématiques qui soient trop scolaires, mais des mathématiques qui sont quand même réutilisables en classe.
Alors justement, en quoi consiste ce concours que vous lancez, que vous avez lancé l'année dernière, pardon, et que vous poursuivez cette année, ce concours de code secret, le Crypto Challenge?
Alors c'est donc déjà c'est un concours de cryptographie. La cryptographie, c'est la science des codes secrets, le principe de cacher une information, un texte. Alors c'est une technique qui est très ancienne. Hein. On le remonte souvent à Jules César, qui décalait les lettres dans l'alphabet. Et là, le Crypto Challenge, il va consister à... On va se mettre un peu dans la peau d'un espion, d'un hacker, enfin quelqu'un qui reçoit un texte donc, qui n'est pas le destinataire, donc il n'a pas le mot de passe. Et le but, c'est à partir de petits indices, du nombre de lettres, de la position de certains mots dans la phrase, de découvrir quel est le texte qui est caché derrière.
Vous avez d'ailleurs appelé ce défi le défi Charles Babbage. Alors, qui était-il, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les prémices de l'informatique?
Bah effectivement, il n'est pas forcément très connu à part des scientifiques, mais effectivement, c'est un scientifique du 19e siècle et il a cassé une méthode de cryptographie qui s'appelle le code de Wigner. Et c'était un code qui était quasi inattaqué, inattaquable depuis 3 siècles. Il a fait des progrès considérables dans ce qu'on appelle la cryptanalyse, donc la partie de la cryptographie qui s'occupe de l'analyse des textes. Et c'est un scientifique qui a aussi inventé la machine analytique, qui est un peu considérée comme l'ancêtre mécanique de l'ordinateur.
Et donc, il était important de l'associer à votre concours.
Voilà, c'est ça. Ouais.
D'ailleurs, pourquoi vous avez lancé ce concours et la première fois que vous l'avez lancé, donc c'était l'année dernière, en période de confinement, me semble-t-il. Est-ce que c'était aussi un moyen de faire aimer les mathématiques aux plus jeunes ou aux moins jeunes, peut-être, hein? On connaît le désamour de beaucoup de jeunes pour les maths, notamment, vous le disiez tout à l'heure, peut-être enseigner de manière un petit peu trop scolaire.
Voilà, donc effectivement, il y a plein de jeunes qui sont un peu rebutés par les mathématiques. En fait, c'est bien dommage parce que on est quand même dans une société où la science est omniprésente. On vit quand même la révolution du numérique et les mathématiques en tant qu'outil primordial des sciences, de beaucoup de sciences et notamment de l'informatique. Souvent, paradoxalement, c'est un outil dont on se pose la question de l'utilité. C'est considéré comme une matière qui est un peu pénible, dure. On dit souvent ça sert à rien. Alors évidemment, moi c'est pas du tout mon discours. Et effectivement, ce concours que je lance, qui est plutôt rigolo, l'idée est de casser un peu cette image des mathématiques et lui donner une forme plus ludique, plus sympa. Voilà, c'est d'aller un peu contre les idées reçues.
D'ailleurs, c'est une pédagogie que vous utilisez avec vos élèves, cette pédagogie un peu ludique pour enseigner les mathématiques.
Alors, dans mes cours, moi, j'utilise parfois le support du jeu. Par exemple, je m'étais inspiré du célèbre jeu Dobble où il faut trouver des correspondances entre les cartes. Et j'ai programmé un Dobble pour faire du calcul mental. J'ai aussi utilisé les ressources du Fab Lab de La Verrière, qui est un endroit où je trouve notamment une découpeuse laser, une imprimante 3D pour construire des casse-têtes. Donc j'essaie de faire manipuler les élèves. Je parle aussi de l'histoire des maths. Pourquoi dans un litre d'eau ça pèse un kilo? Pourquoi il y a 60 secondes dans une minute? Donc j'essaie d'intégrer dans mon enseignement toute une culture scientifique, une culture générale qui n'est pas forcément présente de base dans les programmes. Mais pour moi, tout ça, c'est important à connaître. Alors après, j'en fais pas la base de ma pédagogie, c'est-à-dire que c'est pas un. La quasi-totalité de mes cours, il y a les cours des exercices d'évaluation comme tout le monde. Disons que c'est un support qui vient un peu en plus. Après, la pédagogie reste une pédagogie un peu traditionnelle, quoi.
Oui. Et puis ça marche alors quand vous mettez un peu de ludique dans la pédagogie, même si c'est pas le gros de la pédagogie que vous utilisez, comme vous venez de le dire à l'instant. Ça marche avec certains élèves qui peuvent être rebutés par les maths.
Alors, écoutez, ça dépend. C'est-à-dire que là, il peut y avoir un côté parfois expérimental. C'est-à-dire que quand je vais parler de l'histoire de l'histoire du maître, l'histoire des durées, les élèves qui sont de base curieux, eux, ils vont un peu assouvir leur curiosité. Par contre, quand il y a des gamins qui ont des gros soucis personnels, qui sont en décrochage scolaire, j'ai beau faire du ludique, des jeux de cartes, etc. Il reste hermétique, c'est un plus, qui correspond à certains élèves. Ça ne change pas forcément radicalement toutes les méthodes éducatives, quoi.
Alors justement, pour revenir à ce Crypto Challenge 2021 et ce défi à Charles Babbage, justement, à qui est ouvert ce concours? Et puis, est-ce qu'il y a différents niveaux également pour celles et ceux qui souhaiteraient participer?
Voilà, le but de ce Crypto Challenge, c'est en fait de viser tout public. Alors, déjà, il y a quelque chose sur lequel j'insiste, ce n'est pas uniquement réservé aux scolaires. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du site qui est qui permet aux enseignants de le faire avec leurs élèves en faisant des codes de suivi, des choses comme ça. Mais il y a vraiment tout public qui est visé, enfants et adultes. Je pense qu'à partir de la fin de l'école primaire, il y a les premiers niveaux, niveau 1 et 2, sont clairement faciles, faciles voire très faciles. Il suffit de regarder la vidéo qui s'appelle MI, donc Mission Impossible, la cryptanalyse, qui sert de tutoriel et qui, voilà, qui aide vraiment sur les niveaux 1 et 2. Et là, vraiment, tout un chacun peut le faire, même si on a des horribles souvenirs de sa scolarité en mathématiques et qu'on est adulte, qu'on a 40-50 ans, ben, c'est ouvert. Et par contre, voilà, les niveaux 6, c'est vraiment pour les personnes qui ont une appétence pour les défis, de se casser la tête, parce que là, voilà, c'est des défis qui sont quand même beaucoup plus durs.
Et pour s'inscrire, alors, comment on fait concrètement ?
On va sur le site, c'est jeu au pluriel .jolimat.fr. Joli, c'est IES. Et après, bah, ça fonctionne comme un site classique avec un compte et un mot de passe.
Voilà, c'est d'ailleurs un événement que vous organisez dans le cadre de la semaine des mathématiques. Je ne vous cache pas que j'ai découvert qu'il existait une semaine des mathématiques, voilà, en préparant cette interview avec vous. Donc c'est du 15 au 22 mars. Et vous m'avez d'ailleurs précisé qu'officiellement ça commençait le 14 mars, qui était la journée de Pi, pour ceux qui se rappellent de leur cours peut-être de mathématiques d'antan. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ?
Oui, c'est un peu une blague de mathé entre guillemets, c'est que le 14 mars, donc c'est 14-3. Mais en anglais, où il commence par le mois, ça fait 3-14.
D'accord, donc c'est le chiffre de pi.
Voilà. Donc souvent, la semaine des mathématiques est aux alentours du 14 mars. Comme là, le 14 mars tombe un dimanche, la semaine des maths, c'est du 15 au 22 mars.
Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien Perronneau, d'être venu sur les ondes de Marmite FM pour nous parler de ce concours donc Crypto Challenge organisé à l'occasion de la semaine des mathématiques, donc la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
17h passées de 31 minutes, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Tout de suite, le flash d'actualité locale.
La mairie de Trappes a été victime d'une alerte à la bombe hier. Les forces de l'ordre et les démineurs sont intervenus sur place. Aucun objet dangereux n'a été découvert. Il s'agissait en fait d'une fausse alerte reçue par mail d'un expéditeur anonyme stipulant qu'un engin explosif avait été déposé dans les locaux. L'évacuation du personnel n'était donc pas nécessaire. Des organisations syndicales telles que la CGT Éducation et Sud Éducation se sont rassemblées devant la direction académique des Yvelines cet après-midi afin de dénoncer des conditions de préparation de la rentrée 2021 qu'ils annoncent catastrophiques et explosives. Ils ont également appelé les personnels du second degré à manifester leur désaccord à la veille de l'instance départementale lors de laquelle seront examinées les créations et suppressions de postes pour l'année scolaire prochaine. La préfecture des Yvelines a annoncé hier que les départements a franchi le seuil des 100 000 personnes vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination. Lors du week-end dernier, des 6 et 7 mars, 5500 doses avaient été administrées. Le préfet Jean-Jacques Brault en a profité pour remercier l'ensemble des personnels médicaux, infirmiers et administratifs qui ont participé à cette opération qu'il qualifie de coup de poing.
Et toujours avec Kama Traoré, avec qui, notre stagiaire préféré, hein, avec qui on va parler de Sourire de Femme. Bonjour Kama.
Bonjour Nouradine, bonjour à nos auditrices et nos auditeurs. À l'occasion de la semaine des droits des femmes, une grande enquête sur le cadre de vie des femmes est réalisée par l'Institut des Hauts-de-Seine. Aidée de ses partenaires tels que le département des Yvelines, la région Île-de-France, la RATP et la DAVIP 92, l'association départementale d'aide aux victimes d'infractions pénales et des Hauts-de-Seine, le nom de l'opération est « Sourire de femme ». Il s'agit en quelque sorte d'une consultation pendant laquelle des femmes résidant en Hauts-de-Seine et les Yvelines sont interrogées sur leur vie quotidienne, personnelle et professionnelle, mais également sur le domaine de la vie sociale et l'environnement, afin d'en dresser un panorama. Les entretiens ont lieu dans le bus Santé Femmes qui va sillonner les Yvelines et les Hauts-de-Seine pour aller à la rencontre de femmes isolées et vivant dans une grande précarité, et cela sans rendez-vous, de manière anonyme et gratuite. Ce dispositif concerne les femmes de tous âges et de toutes catégories sociales.
Un parcours santé et citoyenneté complet leur est proposé auprès d'une équipe de professionnels reconnus, comme des médecins, des infirmières ou encore des officiers de prévention. En mars, l'objectif est d'interroger 1500 femmes. Pour connaître les prochaines dates de tournée du bus Santé Femmes, rendez-vous sur le site www.yveline.fr.
Voilà, merci Kama. Donc www.eveline.fr. 17h passé de 34 minutes. Vous écoutez Marmite fait son actu, bien sûr. Allez, courte pause musicale. Et on accueille notre troisième invité pour parler du programme Entrée dans. A tout de suite.
Oh, yeah. Masaya Afoma mounani Congo Benena
Mounani Congo Benena
Ni nou te fe
Mene ma fosike
Mene ma fosike
Fantaya
Fantaya
Enlacé
Ne sont pas ceux qui baisseront les bras. La vie ne nous laisse pas de choix. Être africain ici pas est un combat en soi. Les droits qui sont les miens sont différents. Pourtant je suis un être humain et seule ma couleur me diffère de toi. Ne sont pas ceux qui baisseront les bras. La vie ne nous laisse pas le choix. Être africain ici pas est un combat en soi. Les droits qui sont les miens sont différents. Pourtant je suis un être humain et seule ma couleur me diffère de toi. À contre-cœur je quitte ma patrie. Comme nombreux africains je fuis la misère et ses cris. Vivant au jour le jour, je lutte sans cesse pour éviter mon retour. Pourquoi sommes-nous pris pour des proies? Pourquoi suis-je un ennemi pour toi? Pourquoi devrais-je mourir de faim sans lutter pour un meilleur destin? Masaya Mounani Kongo Benena Memorosi Dendemena Masaya.
À bout sur les ondes de Marmite FM. Ça, c'est un artiste du cru, hein, hein, de chez nous, de Trap, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur son site officiel abou-afripop-musique.com abou-afripop-musique.com. Vous tapez sinon Abou Afripop dans un moteur de recherche, vous tomberez directement sur le site de l'artiste. 17h passé de 36 minutes, vous écoutez Marmite fonce son actu et tout de suite on reçoit notre troisième invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Anne Backland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet santé publique et coordinatrice du contrat local de santé à l'IPS de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'IPS, c'est l'Institut de promotion de la santé donc à Saint-Quentin-en-Yvelines qui se trouve à Trappes. Toute l'année, donc, l'IPS organise des rencontres gratuites pour les aidants familiaux. Le programme des activités proposées pour 2021 est en ligne, en tout cas pour une partie de 2021 est en ligne. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer cette émission, Anne Backland, en expliquant peut-être en quelques mots aux auditrices, aux auditeurs qui n'en auraient jamais entendu parler, ce qu'est un aidant familial?
Bah oui, c'est intéressant de poser la question parce que beaucoup des aidants justement ne se reconnaissent pas en tant qu'aidant, parce que ce qui définit l'aidant en fait c'est l'accompagnement qu'il va apporter à son proche parce qu'il est malade, qu'il a une maladie donc invalidante, qu'il est en perte d'autonomie ou qu'il a un handicap. Et donc les liens souvent qui unissent cette personne à un proche, ce sont des liens de d'époux, épouse, de fille, mère, père, de frère et sœur, etc. Mais pas d'aidant. Et en fait, à partir du moment où on apporte une aide régulière, quotidienne, et qu'on accompagne la personne justement dans ses actes de la vie quotidienne parce qu'elle a un handicap ou une maladie invalidante, ça fait de vous un aidant. Donc l'aide, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une aide aux actes de la vie quotidienne, comme par exemple l'aide aux courses, l'aide au lever, l'aide à la toilette, l'aide à l'entretien du logement. Ça peut être l'aide au déplacement à des rendez-vous médicaux, par exemple. Mais ça peut prendre aussi une autre forme, plus invisible, qui est le soutien psychologique que l'on apporte à son proche, justement parce que il est en situation de handicap ou qu'il a une maladie invalidante.
Alors, pour celles et ceux qui en ont peut-être déjà entendu parler, on sait que le statut d'aidant, voilà, c'est pas quelque chose de facile forcément à vivre, à supporter. Hein, on va y revenir dans quelques instants. Mais est-ce qu'il existe, pour aider justement ces aidants, ces aidantes, un statut, voilà, un statut particulier avec des aides qui pourraient justement permettre à cette personne, je sais pas, qui travaille par exemple, qui a une autre activité, justement se consacrer pleinement ou en tout cas en partie à la personne qui l'aide?
Alors, on enregistre plus de 11 millions de personnes qui sont dans cette situation d'aidance d'un proche au quotidien, que ce soit des personnes qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Et donc, il a paru tout à fait intéressant de reconnaître justement l'aide et la charge mentale que ça pouvait représenter pour ces personnes concernées. Et donc la loi d'adaptation de la société au vieillissement a, dès décembre 2015, envisager justement un statut de l'aidant pour au moins proposer un temps de répit. Depuis, ce statut a évolué et aujourd'hui, la reconnaissance du statut de l'aidant, alors c'est un aidant non professionnel, hein. Il s'agit bien d'un membre de la famille ou d'un ami, ça peut être un voisin aussi qui entretient des liens proches et particuliers avec la personne dite aidée. Ce statut a évolué et aujourd'hui, il peut permettre dans certaines situations à l'aidant d'être rémunéré pour une partie ou l'aide qu'il apporte au quotidien. Ça lui permet également d'avoir des solutions de répit pour justement souffler dans ce quotidien d'aidant. Donc voilà, ça apporte un certain nombre d'aides.
Quels sont justement, hein, on se met dans la tête de quelqu'un voilà, qui aurait un proche ou une connaissance à qui il arriverait quelque chose hein, d'assez important, ça peut être une maladie grave ou autre chose. Quelles difficultés principales ? Peut-être qu'il y a une première partie de sidération qui arrive, ou une partie de personnes qui sont perdues, qui ne savent pas du tout quoi faire. Mais quelles sont les difficultés principales qui vont remonter justement de la part de personnes qui deviennent, contre leur gré, hein, des aidants ou des aidantes ?
Alors tout dépend à quel moment de sa vie ça arrive. Si on est parent d'un enfant en situation de handicap, on est aidant dès sa naissance. Donc on apprend au fur et à mesure à se débrouiller effectivement tous les dispositifs qui vont vous pouvoir venir en aide à votre enfant puis à vous-même. Mais quand c'est une maladie qui survient, par exemple dans une famille, il faut apprendre à connaître les dispositifs qui vont pouvoir vous aider au quotidien. Ça va être comprendre aussi où trouver l'information utile. Ça va aussi être pour certains besoin de rencontrer d'autres aidants qui vivent la même situation pour partager justement leur ressenti, leur vécu. Ça va être un besoin de soutien psychologique, ça va être peut-être un besoin organisationnel, surtout quand on est aidant et que l'on travaille et que on doit confier son proche à des services de professionnels. C'est comment on va organiser le quotidien. Donc ça peut prendre beaucoup de formes. Et en fait, les besoins, je dirais, sont aussi multiples qu'il y a de situations. Et on va retrouver pour autant des besoins similaires.
Alors justement, puisque vous êtes venue pour nous parler, Anne Backlant, de ce programme Entre aidants, quel est l'objectif principal de ce programme à destination des aidants ? On comprend, par rapport à ce que vous nous avez déjà dit, un petit peu de cet objectif, mais voilà, quel est l'objectif global principal de ce programme que vous avez fait à destination des aidants ?
Alors ce programme, il a été construit par un ensemble de professionnels et de représentants d'usagers, à la fois dans le champ de la gérontologie et le champ du handicap, pour justement permettre de mettre en place un programme qui soit, qui apporte une palette d'aides les plus variées possibles pour répondre au maximum de situations, parce que tout le monde ne va pas avoir besoin des mêmes choses, tout le monde n'est pas aidant depuis, n'a pas en tout cas une expérience d'aidant de la même durée, donc ça donne des situations extrêmement multiples. Donc ce programme de soutien aux aidants, il essaie de répondre à plusieurs objectifs, à la fois donner de l'information qui peut être utile sur ce qu'il existe et ce qu'il existe sur le territoire, les aides possibles, mais à la fois sur la compréhension des maladies ou du handicap dont souffrent leurs proches. Ça permet de mieux comprendre et de mieux adapter aussi son aide. Ça permet à la fois de rompre la solitude, de favoriser le lien social à travers les rencontres que l'on propose. Ça va permettre à l'aidant de mieux comprendre, de mieux accepter la pathologie ou le handicap de leurs proches. Ça va pouvoir peut-être l'aider à se déculpabiliser également. Ça va peut-être permettre aussi de contribuer à réinvestir des activités pour soi-même, à s'octroyer du temps pour soi. Ça va permettre de favoriser un meilleur repérage de ses difficultés peut-être et d'accepter ses propres limites et de passer le relais et ça va permettre aussi de développer aussi une meilleure relation entre son proche aidé et soi quand la maladie ou le handicap a bouleversé la relation. Voilà, ça a plusieurs objectifs. Donc pour résumer, ça serait donner de l'information utile, c'est permettre de faire se rencontrer des pères aidants pour partager un vécu, des ressentis, des expériences.
Des pères PAIRS.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça va pouvoir aussi permettre d'échanger et de prendre appui sur ce qui a marché chez certains et qui peuvent aussi être utiles dans son propre chemin.
Alors on le sait, Anne Batland, on est dans une situation compliquée hein, depuis près d'un an maintenant avec le confinement. Je ne vais pas vous poser cette question tout de suite, on y reviendra tout à l'heure sur justement les conditions dans lesquelles justement les aidants se retrouvent avec cette pandémie. On va rentrer dans le détail d'abord de ce programme, parce qu'il y a plusieurs formules qui sont proposées donc aux Saint-Quentinoises, aux Saint-Quentinois via l'IPS de Saint-Quentin en Yvelines. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'entraidant café. Dites-nous en plus sur l'entraidant café.
Alors, l'entraidant café, en fait, c'est le nom qui a été donné aux rencontres qui sont proposées régulièrement et qui sont organisées autour d'un thème, défini, mais qui fait toujours écho, qui est en résonance avec la propre expérience de l'aidant. Donc, on ne va pas s'attacher à parler de la maladie ou du handicap particulier dont souffle le proche, mais vraiment des caractéristiques qui entourent l'aidant, de ses besoins, de ses difficultés, de ses ressentis. Donc, ce sont des entrées dans café dynamiques et à la fois thématiques, où on va faire appel à des professionnels qui sont tous experts dans leur champ d'intervention et qui vont pouvoir échanger avec les autres participants sur une thématique particulière. Je donne un exemple, par exemple, quelles sont les mesures de protection juridique qui peuvent accompagner l'aidant. Je vais faire intervenir un juriste, par exemple, qui est spécialisé sur la question des aidants et qui va pouvoir apporter de l'information, donner des éclairages sur ce que c'est et comment on peut utiliser ces outils. Mais je peux faire appel aussi, par exemple, à une infirmière qui coordonne un service de soins infirmiers à domicile. Quel est son rôle, ses missions, en quoi ça peut les aider, etc. Mais on va pouvoir aussi aborder des thématiques plutôt qui reposent sur le ressenti. Par exemple, je me sens utile, mais parfois je me sens coupable. Ou alors, à quel moment je dois envisager l'entrée en institution de mon proche. Ou alors, ça peut être, j'ai du mal à m'occuper de moi parce que je me sens coupable de laisser mon proche seul. Voilà, on va aborder toutes sortes de questions dans ces entrées dans café et elles s'appuient sur la multiplicité et la diversité des acteurs partenaires. Donc, on peut faire appel, je le disais, à des psychologues, des ergothérapeutes, des infirmiers, des travailleurs sociaux, des juristes, des responsables de services à la personne, toute personne en tout cas qui peut apporter des informations complémentaires et aider l'aidant à s'y retrouver.
Une différence avec les groupes de parole et de soutien par rapport à ces entrées dans café, ce n'est pas la même chose, ça c'est une autre chose que vous mettez en place également.
Oui, alors autant les entrées dans café, je vous le disais, il y a une thématique, ce sont des rencontres qui durent 2 heures. La thématique, elle est posée comme prétexte à discuter, mais le groupe de parole et de soutien, c'est plus un espace d'écoute et d'expression tout à fait libre et dans un cadre beaucoup plus confidentiel. Et là, effectivement, les aidants ont toute la liberté possible d'aborder n'importe quel sujet en résonance avec leur quotidien.
Vous avez également des ateliers thématiques.
Oui, alors on a appelé ça atelier thématique, ça peut prendre vraiment la forme très variée d'ateliers, soit qui sont mis en place pour donner une bulle d'air, un moment de répit aux aidants. Ça peut être l'occasion, par exemple, de se ressourcer à travers la sophrologie, pardon. Ça peut être des moments de ressourcement autour de la musique et du chant. Donc, c'est apporter un peu de récréation pour se ressourcer, se détendre et des ateliers qui peuvent être aussi partagés avec le proche. Ça permet de recréer du lien. Mais ça peut être l'occasion aussi d'apporter des conseils. On va, par exemple, dans un entraidant café, aborder la question des émotions Voilà, je suis traversée par plusieurs émotions et quelquefois je ne sais pas quoi en faire. Donc on va aborder la question et puis dans les ateliers pratiques, on va plus s'attacher à des situations individuelles. Voilà, pour vous, voilà, de quelle émotion il s'agit et comment on va accompagner la personne à mieux vivre avec ses émotions. Voilà, le parallèle entre... Donc ça veut bien dire que tous ces ateliers sont... proposés pour être complémentaires les uns des autres. Certains vont vouloir trouver des lieux pour échanger avec d'autres sur des thématiques, vont avoir besoin d'être plus soutenus psychologiquement et moralement à travers les groupes de parole. D'autres vont vouloir trouver simplement des moments de répit, de ressourcement, de détente, de partage. Chacun va pouvoir y trouver ce qu'il veut. Certains vont tout utiliser, d'autres vont choisir en fonction de leur goût, de leurs besoins, de leur disponibilité.
Alors Anne Pankland, qui peut bénéficier de ces services et comment ?
Alors, les actions sont ouvertes à tous les aidants, quelle que soit la problématique pour laquelle ils sont aidants. Aidants non professionnels, hein, j'entends. Donc il y a une diversité de problématiques hein, du point de vue de l'aidant et on va pouvoir effectivement accueillir tous les aidants, quelle que soit leur problématique de santé. Donc c'est toute personne qui accompagne de manière quotidienne ou même occasionnelle un proche, son père, sa mère, son conjoint, sa conjointe, son fils, sa fille, petit-fils, petite-fille, frère, sœur, ami, voisin. C'est très, très, très large.
Et du coup, si on veut justement participer soit à un entre-dents café, un groupe de parole, un atelier thématique, comment on fait ? Il faut s'inscrire, il faut appeler l'IPS ?
Oui, il suffit de se faire connaître auprès de l'IPS. Hein. On peut accompagner la personne à choisir, à venir tester. Souvent, c'est une invitation à venenir tester. Voilà, venez échanger avec le groupe. Vous vous rendrez compte, effectivement, si ça peut être intéressant pour vous de sortir voilà, un peu de votre isolement. C'est quelquefois un peu difficile de parler de sa situation, même à des membres de sa famille ou de son entourage. Et là, c'est un lieu vraiment où voilà, les gens partagent non pas la même maladie ou le même handicap, mais la même difficulté d'être aidant, quelquefois la difficulté à tenir dans la durée aussi. Donc, se faire connaître de l'IPS, tout simplement. Et puis après, on met en place un système de rappel des actions pour que les gens soient invités à participer sur inscription.
Une dernière question avant de donner les informations pratiques, Anne Backland. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons vécu des périodes de confinement, déconfinement, avec les conséquences néfastes qu'on peut connaître notamment sur la santé psychique. Alors, est-ce qu'il y a eu une forte augmentation du nombre d'aidants à Saint-Quentin en Yvelines? Voilà, est-ce que vous avez vu de nombreuses personnes affluer, je sais pas, notamment dans les groupes de parole qui ont eu envie de parler, peut-être d'échanger avec vous ou dans les autres choses que vous proposez également?
Alors ça c'est assez difficile à dire parce que on ne dénombre pas le nombre d'aidants. On a un tableau de bord santé qui est donc élaboré par l'IPS qui permet d'avoir un certain nombre d'indicateurs sur l'état socio-sanitaire de la population. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont touchées par des maladies ou porteurs d'un handicap. Mais on n'a pas ce recueil des aidants. Pour autant, on peut se dire effectivement qu'autour de la personne malade ou de la personne porteur d'un handicap, on va avoir un aidant à côté de lui. Donc c'est ça qui permet de définir qu'il y a un nombre d'aidants important à Saint-Quentin. En tout cas, si on rapporte le chiffre national au territoire de Saint-Quentin, le nombre d'aidants est important. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que effectivement, l'année 2020 et les mois qu'on vient de traverser en 2021 sont marqués par la crise sanitaire et les périodes de confinement partiels ou complets qui ont pu déstabiliser, isoler ou fragiliser davantage les proches aidants. Et être aidé quand on est aidant, c'est nécessaire, c'est vraiment fondamental pour lutter contre l'épuisement physique et psychologique, et que ce programme d'action permet de prendre en compte justement ces situations-là et de venir en aide aux aidants qui veulent bien se faire connaître et se faire aider également. Donc c'est vraiment pour être en réponse à leurs préoccupations quotidiennes que ce programme est mis en place. Il y a une nouveauté aussi, peut-être, dont on peut parler, c'est qu'on a mis en place une solution de répit également, qu'on a appelée passe-temps libre, pour justement des aidants qui sont en manque de relais, à leur domicile. On a mis en place ce passe-temps libre qui est un dispositif qui permet à l'aidant de se faire relayer au domicile auprès de son proche pour quelques heures, pour le motif de son choix, être relayé par un professionnel de l'aide à domicile, et ces heures sont préfinancées déjà. Donc on met en place ce dispositif depuis fin 2020, et si voilà les personnes qui sont intéressées justement, qui n'ont pas d'aide chez elles, peuvent solliciter ce passe-temps libre pour être relayées jusqu'à 12 heures.
Merci beaucoup, en tout cas, Anne Backland, d'être venue nous présenter ce beau programme Entre Aidants. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas fait tout ça toute seule. Hein.
Oui.
Voilà, vous avez porté ce projet avec des partenaires,
oui.
Voilà, avec plusieurs personnes. On pourrait les citer, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Et ben alors, en fait, c'est le fruit, ce programme, d'un travail concerté avec les acteurs de l'accompagnement qui sont sur ce territoire et qui sont réunis au sein d'un groupe de travail dédié, piloté par Saint-Quentin, par l'IPS, un groupe de travail aide aux aidants, et ils sont nombreux, hein, on y retrouve les représentants de CCAS, des responsables d'accueil de jour, de services de soins infirmiers à domicile, de dispositifs spécifiques en direction des personnes en situation de handicap, des personnes touchées par une maladie, l'UNAFAM, France Alzheimer Yvelines, France Parkinson. On va retrouver tous ces acteurs qui sont concernés, qui accompagnent des publics et qui ont des aidants aux alentours de ces publics et pour lesquels la question de l'accompagnement est vraiment très très importante. Donc on est financé également pour mettre en place ce programme par la G2R La Mondiale, par la CNAV, par l'ARS Île-de-France également et par la Conférence des financeurs qui apporte vraiment un soutien important, et c'est ce qui nous permet de dérouler un programme aussi diversifié et régulier d'action.
Voilà, puis c'était important de le préciser, puisque c'est un travail d'équipe avant tout. Je rappelle les informations pratiques. Donc, si vous souhaitez, comme Anne Backland nous l'a présenté tout à l'heure, voilà, en savoir plus sur ce programme, ou si vous souhaitez justement en bénéficier, vous avez soit le site internet de l'IPS, www.sqy.fr/IPS. Vous avez également le numéro de téléphone suivant, 01 30 16 17 80. Je répète, 01 30 16 17 80, ou comme moi vous n'avez pas le temps, vous n'avez jamais de stylo à côté de vous pour noter les informations pratiques, vous tapez Institut Promotion Santé IPS 50 ans Yvelines et vous tomberez dans un moteur de recherche forcément sur le lien qui renvoie vers leur site internet. Merci beaucoup Anne Backland d'être venue au micro de Marmite FM.
Merci de votre invitation.
Je rappelle que vous êtes chargée de projet santé publique et coordinatrice du contrat local de santé à l'Institut de promotion de Saint-Quentin en Yvelines. De promotion de la santé, hein. J'ai oublié le mot le plus important. Merci Anne Backland.
Merci, au revoir.
Allez, 17h57, on termine cette émission avec la Minute Conso de Pierre Joanet.
La Minute Consommateur avec Pierre Joanet.
Un certain nombre de clients d'Engie se sont émus de recevoir de façon insistante des courriers de leurs fournisseurs de gaz ou de fournisseurs concurrents. Jusqu'à 15 courriers pour certains foyers, leur annonçant la fin du tarif réglementé du gaz et en conseillant vivement de souscrire dès maintenant un nouveau contrat. Cela a pu en inquiéter certains, notamment des personnes âgées, et les inciter à s'engager illico pour un nouveau contrat. Le tarif réglementé, c'est quoi ? C'est une offre proposée par le fournisseur historique, Engie, qui a succédé à Gaz de France, puis GDF Suez, ou les ELD, qui sont des entreprises locales de distribution, dans des zones non desservies par le réseau national. Les tarifs proposés sont dits réglementés parce que ce sont les pouvoirs publics qui les fixent, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de l'Économie. Les contrats de gaz aux tarifs réglementés prendront fin le 30 juin 2023. À cette date, le client qui bénéficiait jusque-là d'un tarif réglementé devra avoir signé un nouveau contrat en offre de marché auprès d'un fournisseur. Il pourra librement choisir de rester auprès du fournisseur historique ou de préférer un concurrent. Mais alors, que faire ? Surtout, ne rien signer dans la précipitation. L'échéance est dans plus de 2 ans, donc rien ne presse. Si Engie essaye de faire signer au plus vite des contrats à ses clients actuellement sous le régime du tarif réglementé pour éviter qu'ils ne s'envolent vers d'autres cieux, ces derniers ont au contraire tout intérêt à prendre leur temps pour choisir leur nouveau fournisseur en connaissance de cause. Il est important de bien choisir l'offre la mieux adaptée à son cas et de mettre toutes les propositions en concurrence. Contrat en offre de marché n'est pas forcément synonyme de hausse de tarif. Pour aider les particuliers dans leur choix, l'UFC Que Choisir met d'ailleurs en ligne sur son site national un comparateur des prix gaz et électricité. Que va-t-il se passer concrètement au changement de contrat ? Eh bien, quand le client aura souscrit sa nouvelle offre, avant la date butoir du 30 juin 2023, il n'aura plus aucune démarche à accomplir. Le nouveau fournisseur s'occupera de la résiliation du contrat précédent. Il n'y a pas de frais, pas de préavis, pas de coupure de gaz et pas de changement de compteur.
Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Marmite fait son actu, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau direct.
Marmite fait son actu, tous les mercredis de 17h à 18h.